Monseigneur Maillard, bonjour.
Bonjour.
Voici l'heure de notre entretien hebdomadaire du vendredi. Aujourd'hui, notre sujet concerne le motu proprio publié par Benoît XVI, ce fameux motu proprio attendu depuis un an et qui est une main tendue, explique Benoît XVI, à l'Église qui est attachée aux messes traditionnelles en latin. C'est comme ça qu'on va le dire. On peut dire d'abord, Monseigneur Maillard, qu'est-ce que ça veut dire qu'un motu proprio ?
Eh bien, comme le dit le Saint-Père dans l'intitulé de sa lettre, il parle d'une lettre apostolique en forme de motu proprio du souverain pontife Benoît XVI sur l'usage de la liturgie romaine antérieure à la réforme de 1970. Donc, j'allais dire, le déploiement de ce que je viens de lire, qui est assez long, donne à la fois le sens de la lettre et puis le contenu, le sujet qui est abordé dans cette lettre. Donc c'est une lettre adressée par le pape aux fidèles avec son autorité de pape sur une question particulière.
Alors cette question particulière, elle est donc cette messe en latin de 1962, le rite Saint-Pie V. On peut peut-être préciser, parce qu'il y a, eu réforme dans la liturgie Saint-Pie V en 1962.
Voilà. Donc je crois qu'il faut bien avoir, pour comprendre un minimum ce débat et que ça repose sur des choses précises, donc on sait qu'il y a eu le Concile Vatican II. Et donc quand on parle de la liturgie et de la réforme de 1962, c'est donc la liturgie telle qu'elle était pratiquée avant le Concile Vatican II par les fidèles, celle que probablement beaucoup des auditeurs de Radio Fidélité ont entendu dans leur jeunesse, dans leur paroisse. Alors, à la suite du Concile, il y a eu une réforme qu'on appelle la réforme de Paul VI en 1970, qui entre autres a permis l'adaptation de la liturgie aux langues des différents peuples, ce qu'on appelle les langues vernaculaires. Donc, pour chez
les
nous,
langues
le
locales.
Français, langue locale. Donc voilà un petit peu, c'est le changement, j'allais dire, le plus spectaculaire, si on veut bien, et sur lequel, j'allais dire, les médias dans ce débat polarisent l'attention.
Alors, un motu proprio, c'est comme une loi, on doit y obéir, on doit s'y soumettre.
Si vous voulez, c'est quand même une orientation qui est donnée par rapport à un problème précis qui touche à la vie de l'Église, si vous voulez. Et donc, le pape là intervient à l'échelle de l'Église universelle. Donc, ça a quand même une autorité importante dont nous devons tenir compte, nous devons le prendre connaissance. Mais, alors, rien ne remplace la lecture complète, mais enfin, c'est peut-être un peu complexe, mais je crois que ce qu'il faut avoir d'abord en tête, c'est la volonté du pape de, j'allais dire, par rapport à l'unité de l'Église et l'unité des chrétiens et des fidèles au sein même de l'Église. Je crois que c'est ça la visée et qu'il faut d'abord comprendre avant d'entrer dans les détails d'organisation.
Les chrétiens se disent on aura de plus en plus des paroisses avec cette messe en latin 1962.
Je crois que, enfin, je sais pas si le mot rassurer, j'allais dire, est le bon mot, mais dans le fond, je crois que le motu proprio n'impose à aucun chrétien de célébrer dans ce rite Saint-Pie V. Personne ne sera obligé d'assister à cette messe selon ce rite appelé de Saint-Pie V, si vous voulez. Mais c'est une concession pour des groupes au nom du bien commun et du bien supérieur de la vie en Église, que pour qu'ils restent en communion, qui sera faite. Alors dans un certain nombre de situations, comme dit le motu proprio, entre autres, dans les paroisses où il existe un groupe stable de fidèles attachés à la tradition liturgique antérieure, le curé, donc c'est le rôle des curés, en l'occurrence est souligné, accueillera volontiers leur demande de célébrer la messe selon le rite du missel romain édité en 62. Donc il y a un accueil plus large qu'avant de cette possibilité qui est offerte. Alors le tout est de savoir qu'est-ce qu'on appelle un groupe stable de fidèles attachés oui. à la tradition liturgique. Ça sera un petit peu à l'appréciation et à la sollicitude pastorale de la paroisse. Etc.
Ça mais ne peut pas être que paroissial comme décision. Elle sera automatiquement diocésaine aussi.
Ça dépend du contexte. Ça dépend du groupe qui existe. Mm-hmm. Mais effectivement, je crois qu'on ne peut pas envisager une démultiplication indéfinie de ces groupes à l'échelon d'un diocèse. Autrement, on risque d'avoir des gens qui d'aboutir à l'inverse de ce qui était voulu, c'est-à-dire que si chacun peut faire ce qu'il veut sans s'occuper du reste des chrétiens, autrement dit, est-ce que des chrétiens peuvent dire, moi j'ai pas besoin de retrouver mes voisins qui sont chrétiens, de partager leurs prières, etc.
Alors ça
c'est le rôle du rite, ça un peu. Oui.
Mais ça c'est le risque aussi, c'est qu'il y ait plusieurs chapelles à l'intérieur d'une même paroisse.
C'est le risque et c'est si vous voulez la préoccupation de beaucoup de curés puis des évêques actuellement, c'est de dire comment peut-on faire droit à cette demande de ces groupes stables de fidèles dont il est question et de maintenir la communion avec l'ensemble des chrétiens de diocèse parce que c'est quand même cela la mission d'un évêque. C'est pourquoi il faut concilier et prendre le temps de réfléchir. Alors cet été va être mis à profit et normalement le motu proprio s'applique seulement en septembre, le 14 septembre prochain. Donc, je crois que c'est important qu'on ait les uns et les autres une attitude de vivre ça dans la foi et pas seulement dans une attitude de savoir qui l'emporte sur l'autre, qui gagne sur l'autre, à qui le pape a donné raison. Je crois que c'est la foi vécue, célébrée, partagée qui est en jeu à travers ça. Et enfin, moi, je l'ai dit souvent dans cette affaire, moi, j'ai beaucoup souffert de voir l'image que les chrétiens ont
donnée
en disant on se bagarre pour savoir si c'est du latin ou du français, c'est traduit comme ça par les médias, alors que l'enjeu de l'annonce de l'évangile à la masse des gens de nos contemporains qui ne sont pas rattachés à l'Église et ne vivent pas de la foi, j'allais dire, est oublié dans ce débat.
Il y a une question qui est, une chose qui est dite, entre autres, il s'agit de purifier les abus autour de la liturgie ordinaire. C'est une espèce de réforme de la réforme. Qu'est-ce que vous pensez de cette réflexion ?
Alors, effectivement, j'entends souvent dire que c'est les gens qui sont attachés à ce rite de 1962, c'est un peu des gens qui ont été déçus ou choqués par des adaptations un peu fantaisistes de la réforme du Concile Vatican II. Bon, c'est peut-être qu'il y a eu des abus, mais il y en a eu avant, j'allais dire ça fait partie de l'histoire et peut-être de la nature humaine, mais franchement, je trouve que présentement, actuellement, dans ce que je vois, quand je circule à travers le diocèse, je ne constate pas d'abus. Bon, il y en a peut-être une fois ou l'autre, mais il ne faut pas non plus avoir l'œil mauvais et puis être là en permanence
à
surveiller l'erreur, la faute, un peu comme des parents qui seraient tout le temps sur le dos du gamin pour voir s'il obéit ou pas. Enfin, je crois qu'il faut que nous vivions notre foi dans l'Église avec une certaine liberté spirituelle, non pas pour faire n'importe quoi, mais parce que on faut être soi-même, quoi. On peut pas vivre toujours tendu et toujours se considérer comme étant des victimes, soit étant là comme des surveillants qui jugent les autres.
Qui guettent la moindre erreur, le moindre travers.
Hein, tout ça. Bon, moi, mais ce qui est des erreurs, peut-être, des abus, il y en a sûrement eu, mais je pense que dans le rite ancien, il y en avait aussi, mais c'était pas les mêmes. Je crois que l'effet du motu proprio ne sera pas soldé le 14 septembre.
Comme une application
de loi. C'est un processus long de vie en Église.
C'est pas l'application d'une loi civile, c'est autre chose.
Ça touche à une attitude spirituelle profonde qui doit nous interroger tous, et je pense que c'est le côté positif de ce motu proprio, c'est que nous sommes quand même invités à nous interroger sur, comme je dis nous tous, sur l'attitude spirituelle profonde que nous avons dans notre appartenance à l'Église, telle qu'elle se présente aujourd'hui.
D'autant plus que l'esprit de Benoît XVI, dans l'introduction à cette lettre, dit qu'il a beaucoup prié et invoqué l'Esprit Saint avant de s'adresser à vous tous, les évêques. C'est émouvant, c'est poignant.
Je crois qu'effectivement, c'est parce que le Saint-Père, c'est l'évêque de Rome qui a une juridiction sur l'Église universelle, mais il ne l'exerce pas comme un potentat, si vous voulez, qui décide sans consulter, sans sentir ce que le peuple des chrétiens, ce que les évêques, ce que les églises particulières du monde entier portent en eux.
Alors une dernière question, on prolonge un petit peu parce que c'est important. Une dernière question, c'est donc rédigé avec foi sous l'inspiration de l'Esprit-Saint et en même temps ça suscite beaucoup de questions. Alors c'est tout le problème d'obéir à celui en qui on a confiance et en même temps discuter.
Je crois que si vous voulez, s'il y a une lettre qui fait... Là, j'ai sous les yeux 4 pages, plus une lettre qui est adressée aux évêques qui doit en faire 7 ou 8. C'est que, dans le fond, le sujet est quand même complexe et touche à un point sensible. Pourquoi un point sensible? Parce que ça touche à la manière de croire, de prier, d'être dans l'Église, de partager sa foi. Donc, si vous voulez, l'obéissance dont vous parlez est importante, mais obéissance... Je crois qu'on a une idée de l'obéissance qui est un peu infantile,
c'est-à-dire
le gamin avec ses parents. Mais là, il s'agit d'obéir, c'est-à-dire de se soumettre à la parole de Dieu qui conduit nos vies et à l'enseignement de ses responsables, qui sont le pape et les évêques, qui eux ne parlent pas de manière arbitraire, qui ne parlent ou ne donnent des orientations, j'allais dire, qu'après avoir... bien pesé, qu'après avoir senti, qu'après avoir prié, réfléchi et étudié en fidélité à la tradition de l'Église.
Merci Monseigneur et à la semaine prochaine.